Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Calade.
Ma radio.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais d'Ombes. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur le site Radio Calade ou sur la page Facebook de la radio ou de la CPTS. Cette émission est donc en podcast. Elle est préparée par l'équipe radiophonique de la communauté territoriale de santé Beaujolais d'Ombes et animée aujourd'hui par Alexandra. Bonjour.
Bonjour Ludovic.
Tout va bien ?
Ça va, merci.
Bon. Marie ?
Bonjour.
Ah, on sent quand même, c'est timide. Hein, quoi.
Avec une petite extinction de voix ce soir.
Bonjour Marie, je vais y arriver. Alexandra, bonjour.
Non, ça c'était moi.
Ah oui, merci. C'est excellent. Cécile, bonjour.
Bonjour.
Et Amaury, aux manettes, comme bonjour. D'habitude. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir la maladie d'Alzheimer. Découverte en 1906, le docteur Alzheimer a décrit cette maladie neurodégénérative qui se manifeste par une perte progressive de la mémoire et des fonctions cognitives. Elle est principalement causée par l'accumulation de plaques de protéines dans le cerveau qui interfèrent avec les signaux électriques nécessaires au bon fonctionnement des cellules cérébrales. Les symptômes de l'Alzheimer comprennent la confusion, la désorientation, la difficulté à se souvenir des événements récents, la perte de capacité intellectuelle, et puis on verra, il y en a certainement d'autres. Sans véritable explication sur les causes qui provoquent l'Alzheimer, on peut retenir que des facteurs génétiques, environnementaux et des habitudes de vie peuvent être certainement en cause. Elle touche en France 1 million de personnes de plus de 65 ans et chaque année, c'est 225 000 personnes qui sont diagnostiquées selon le rapport World Alzheimer 2015. Et c'est la Chine qui est le pays le plus touché par la maladie, proportionnellement gardée en rapport avec la population couverte. Comme d'habitude, dans notre émission de temps, la première où nous allons découvrir la maladie avec ses facteurs d'apparition, les âges de la découverte, les signes cliniques. Et puis, nous parlerons également de l'importance du diagnostic et de la difficulté à l'établir dans cette maladie. Dans un second temps, nous verrons la prise en charge de la maladie sur le plan médical et sur tous les soins de support qui sont mis en œuvre dans cette maladie. On verra que la prise en charge n'est pas stéréotypée, qu'elle répond aux besoins du patient avec un engagement important du territoire Beaujolais d'Ombes. Nous verrons également la place de l'aidant dans la maladie, car lui aussi ou elle aussi est en souffrance. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous le docteur Anne Nové-Josserand. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes neurologue ?
Oui.
Chef de service ?
Oui.
Bon. Et donc vous exercez principalement sur l'hôpital ?
Complètement.
Complètement sur l'hôpital.
Sur l'hôpital. Uniquement sur l'hôpital.
Un grand merci pour apporter votre éclairage sur cette maladie dont le nom est certes très connu, mais avec beaucoup de confusion du grand public, de méconnaissance sur la véritable maladie d'Alzheimer. Alors docteur, comment se définit cette maladie ?
Alors c'est une maladie qui est avant tout progressive, donc ça vient de façon très insidieuse et ça évolue doucement. Avec parfois des marches d'escalier qui surprennent un peu les gens. C'est surtout une maladie qui est fréquente, qui touche avant tout les personnes âgées, mais qui peut survenir chez des sujets un peu plus jeunes parfois, et ce qui peut être désarçonnant. Et puis, c'est une maladie qui est très fréquente avec l'âge. Donc, on est forcément, à un moment, confronté autour de notre entourage à quelqu'un qui présente des symptômes et on sort de ce qu'on a appelé pendant très longtemps la démence sénile, qui était la démence du vieux, pour réellement arriver à définir la maladie et à la prendre en charge de façon plus adaptée. Donc il y a eu une grosse évolution sur la façon de voir ces troubles de la mémoire avec le temps.
Est-ce qu'on peut dire finalement que plus on devient vieux, plus il y a des risques ?
Ah oui, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'avant 60 ans, on a 0,5% de risque, tandis qu'à 90 ans, on en a 40%. Donc la fréquence de la maladie est bien plus importante avec l'âge. Et c'est sûrement l'augmentation de la durée de vie qui a permis de dévoiler ce nombre important de patients atteints de cette maladie.
Alors, il y a des causes connues ?
Non, il n'y a pas de cause certaine. Il y a quelques rares cas, moins de 1% de cas de formes génétiques qui ont toujours intéressé la science parce que ça permet d'essayer de comprendre le mécanisme et de se dire que si on comprend le mécanisme, on trouvera un traitement de la cause. Mais ce n'est pas une cause très fréquente, hein, c'est exceptionnel, c'est des familles exceptionnelles. Après, on a ce qu'on appelle des facteurs de risque, donc des allèles, des formes de gènes qui favoriseraient le risque, qui multiplieraient par 2 ou 3 le risque d'avoir une maladie, mais qui ne nous le garantit pas ni dans un sens ni dans l'autre.
J'ai parlé de protéines qui se déposaient donc sur les cellules cérébrales. C'est ça en fait, c'est vraiment le...
Alors il y a 3 mécanismes qui viennent dans le cerveau. Il y a un dépôt en effet en extracellulaire, en dehors des cellules, de protéines amyloïdes, qui est le premier stigmate qu'on peut voir au niveau du cerveau. Après, on va voir ce qu'on appelle une dégénérescence neurofibrillaire. C'est à l'intérieur des neurones. Il y a des petits filaments qui permettent de guider les influx, les protéines à l'intérieur des cellules et ils vont dégénérer. Et le troisième aspect anatomopathologique caractéristique, c'est la mort neuronale.
Avec quelle maladie, finalement, on peut faire la confusion avec l'Alzheimer ? Est-ce qu'il y a des maladies qui ressemblent à l'Alzheimer ?
Alors, il y a beaucoup... Donc, ça fait partie des maladies dégénératives parce que les neurones meurent. Et il y a beaucoup d'autres maladies dégénératives. On parle de l'Alzheimer parce que c'est la plus fréquente. Mais on peut avoir la démence à Cord-Lévy, qui est un intermédiaire entre l'Alzheimer, pour simplifier, hein, bien sûr, entre l'Alzheimer et le Parkinson. On peut avoir des dégénérescences frontotemporales. Donc là, c'est d'autres... stigmates anatomiques, c'est pas les mêmes lésions au niveau du cerveau et elles sont situées ailleurs, qui touchent des sujets différents. Voilà les grandes causes, mais on a la chorée de Huntington, on a beaucoup de maladies neurodégénératives en neurologie malheureusement.
D'accord. Est-ce que le nombre de personnes atteintes de l'Alzheimer a augmenté par rapport à, je sais pas, il y a 50 ans par exemple, ou est-ce que c'est le diagnostic qui a augmenté ou la durée de vie qui fait que le nombre de personnes augmente, ou la prévalence de nombre de personnes sur, je sais pas, sur de 60 à 70 ans, est-ce que ce nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer a augmenté par rapport à il y a 50 ans ou plus?
Alors par rapport à 50 ans, je dirais qu'on en diagnostique plus, on s'intéresse vraiment à cette maladie depuis 94, le temps passe, ça fait 30 ans quand même. Premier médicament. Donc c'est là où vraiment, du moment où on commence à chercher une thérapeutique, ça veut dire que vraiment, enfin, que les médecins comme les pharmaciens s'intéressent à cette maladie. Donc c'est vers ces moments-là qu'on a fait un peu les premières épidémiologies de la maladie. Parce qu'en fait, il faut former des médecins. Pour savoir combien il y en a, il faut savoir déjà les diagnostiquer. Donc ça a été à ce moment-là que vraiment il y a eu l'essor de la prise en charge de la maladie. Et depuis donc 90, des années 90 jusqu'à maintenant, on avait une projection sur le nombre de malades avec l'inquiétude que ça explose. Et finalement, là, vous avez dit 1 million de personnes. Et moi, quand j'avais appris ça, on avait déjà dit qu'il y en aurait en 2020 1 million et que c'était lié au vieillissement de la population, mais pas au nombre de cas plus importants. Donc on ne pense pas qu'on ait un facteur exogène qui soit en train d'augmenter. Par contre, on a plus de diagnostics parce que plus de médecins formés pour le faire, plus d'alerte aussi pour la population qui s'inquiète plus, quoi. Avant, on avait une tolérance et puis les gens vieillissent.
Le vieillissement de la population.
Plus, on revient à ce qu'on a dit, hein, 0,5 avant 60 ans et 40% à 90 ans. Donc.
Et c'est la maladie neurodégénérative la plus répandue parmi toutes les autres ?
Oui. De loin, c'est la plus répandue. Okay. Après, il y a la maladie de Parkinson, mais avec pas le même pronostic.
D'accord.
Il y a une évolution qui est beaucoup plus rapide et grave.
Et du coup, si on reprend les signes avant-coureurs de la maladie, justement, pour le tout public, pour voir qu'est-ce qui va amener à consulter, ce serait quoi alors ?
Ah ben, clairement, c'est des troubles de mémoire, de la mémoire récente, hein, des choses qu'on appelle antérogrades, de ce qui vient de passer. Qui est dans l'oubli au quotidien, quoi. J'oublie des choses au quotidien, qu'on m'a appelé, que j'avais un rendez-vous. Mais...
Alors ouais. Ça arrive à tout le monde.
Oui, alors ça arrive surtout quand on a une charge mentale importante. Voilà. Exact, oui. Donc c'est des oublis bénins, hein, c'est fréquent. Par contre, ce qui est plus inquiétant, nous, ce qui nous inquiète, d'abord, c'est la répétition, d'abord. Le fait qu'on ne s'en rende pas compte, tiens, on a oublié quelque chose, mais non, c'est toi qui ne me l'as pas dit. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant, du coup, on n'a pas forcément le... Et puis, que ce soit sur des choses qui sont chargées affectivement. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « j'ai oublié mes enfants à l'école », mes petits-enfants, souvent d'ailleurs, c'est plutôt comme ça. Ben, même la personne concernée par cet oubli est inquiète parce qu'on peut oublier d'acheter du riz ou je sais pas quoi, mais les petits-enfants, il y a souvent une charge affective importante. Donc normalement, l'oubli, il est moins là, quoi. On peut être en retard, etc., mais il est moins là. Et là, ça inquiète. Mais l'oubli, ça reste la forme d'entrée dans la maladie la plus fréquente. Mais c'est pas la seule, hein.
Est-ce que ça peut être aussi un oubli de mots quand on cherche ces mots ou ça, c'est vraiment sur des faits ou des choses à faire ou des...
Alors... le manque de mots, d'abord, c'est une autre façon de rentrer dans la maladie. Donc, nous, le manque de mots, c'est pas la mémoire, hein, c'est vraiment un trouble du langage. Mm-hmm. Et on peut rentrer dans une maladie, mais alors là, c'est moins caractéristique, quoi, mais on peut rentrer dans une maladie d'Alzheimer sous forme d'un manque de mots. On appelle ça une aphasie primaire progressive. Et parmi les aphasies primaires progressives, il y en a qui correspondent à des lésions au niveau du cerveau. De maladies d'Alzheimer, puis d'autres qui correspondent à d'autres maladies qu'on appelle l'éthopathie ou d'autres maladies dégénératives.
Donc, il ne faut pas forcément dire qu'une aphasie, c'est signe d'un Alzheimer, finalement.
Non, ça peut être d'autres maladies.
Ça peut être d'autres maladies, parce que c'est vrai que c'est aussi fréquent que...
Et lorsqu'il y a un doute sur les symptômes, est-ce qu'il est pertinent d'alerter son médecin rapidement ou il vaut mieux attendre un petit peu de voir comment ça évolue, enfin, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à consulter rapidement ou...
Alors depuis ces 10 dernières années, nous on a été vraiment martelés, enfin on nous a appris à faire un diagnostic rapide parce qu'on avait bon espoir de trouver un traitement thérapeutique qui empêche le développement de cette maladie. Et puis, donc ça, c'était il y a 30 ans. Et donc, on a passé beaucoup de temps à apprendre aux médecins à faire un diagnostic précoce, qu'on appelle. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore de traitement qui empêche le développement. On a des traitements qu'on dit symptomatiques, c'est-à-dire, c'est un peu comme le Doliprane, j'ai de la fièvre, j'empêche la fièvre. Voilà, j'ai des neurones qui marchent moins bien, donc je donne des neurotransmetteurs à la place. Mais je n'ai pas la molécule qui va empêcher ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la mort neuronale, la dégénérescence neurofibrillaire, les dépôts de protéines. Ça, je n'ai pas. Donc, je dirais que oui, c'est important parce que de toute façon, il y a un mal-être... quand on sent qu'on n'est pas bien. Donc, c'est important de mettre un diagnostic sur une maladie. Moi, je pense pour le patient et sa famille, de comprendre ce qui se passe. Pour eux, c'est important, bien que ce n'est pas de retard à la prise en charge médicamenteuse. Voilà.
Qui alerte généralement? Parce que c'est rare, j'imagine, que ce soit le patient de lui-même qui aille en consultation.
Alors, il y a les deux. Il y a le patient qui vient, qui est inquiet plus que son entourage, et il ressent quelque chose, et cela, c'est les plus précoces. Et en fait, ils le savent, ils le sentent mieux que ce que nous, on pourrait le percevoir au départ. On est obligé d'aller pousser un peu loin les examens pour confirmer. Cela, c'est des diagnostics qui sont assez précoces. Et puis, il y a ceux qui sont mis dans une sorte de défense, en se disant machin, et qui, finalement, ça va être l'entourage qui va venir avec eux en consultation, voir le médecin traitant en disant « ça va pas, je suis sûr, il a des oublis, c'est pas normal ». Donc on a un peu les deux types de profils en nouveau diagnostic qui arrivent à notre consultation.
Avant de passer sur le traitement, qui sera la seconde partie de cette chronique, je voudrais simplement savoir, vous nous avez parlé que le diagnostic était long. Comment ça se passe au niveau... vous avez en fait, c'est qu'un diagnostic de symptômes où il y a quand même des analyses médicales qui vont vous permettre d'affirmer votre diagnostic?
Alors, la plupart des diagnostics, on les fait sur des symptômes médicaux, donc avec des tests de mémoire qui sont faits par le médecin ou par une neuropsychologue, ou les deux d'ailleurs, très souvent. Mais en cas de... on n'a pas des marqueurs de radiologie. C'est sur l'IRM, on l'a fait, mais le plus souvent pour éliminer autre chose, une autre maladie, etc. Parce que l'atrophie qui vient avec la mort neuronale. Donc l'atrophie qu'on voit à l'IRM qui est liée à la mort neuronale, elle est tardive. Donc ce n'est pas l'IRM qui va nous permettre un diagnostic précoce, même si on fait souvent une imagerie pour éliminer autre chose. Et puis, quand on a un doute, qu'on n'est pas sûr de tout ça, on va aller jusqu'à une ponction lombaire dans laquelle on va doser la protéine, donc la protéine qu'on a citée tout à l'heure, la protéine amyloïde, la protéine tau. On va faire des ratios de ces différentes protéines et on va déterminer des seuils à partir de quand on considère que c'est les stigmates d'une maladie d'Alzheimer biologique. Voilà. Mais il faut bien rester en compte qu'on a trois critères, en fait. On a un critère de maladie d'Alzheimer clinique, quels sont les symptômes, biologique avec la ponction lombaire et radiologique en écartant d'autres choses. Donc en fait, il faut bien qu'on accumule ces trois éléments pour pouvoir faire un diagnostic de très forte probabilité.
Et en termes de temporalité, ça peut mettre combien de temps? Ça se compte en mois, en année?
Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut avoir accès à la consultation mémoire avec des délais de consultation qui sont de plusieurs mois. Donc, du coup, voilà. Après, en fonction des cas, la consultation mémoire, c'est fait par un médecin neurologue ou gériatre sur notre territoire. Et après, en fonction des cas, on va orienter vers la neuropsychologue. Des fois, on en a besoin parce qu'il faut aller plus loin dans les tests parce que notre consultation d'une heure n'a pas suffi. Des fois, on va s'arrêter là et le patient va sortir avec un diagnostic de la consultation. Mmh. Chacun, ce n'est pas stéréotypé, tout le monde ne va pas avoir la même chose.
Oui.
Le but, c'est que chacun ait son propre diagnostic. Voilà. Mmh. Et donc après, une fois qu'on demande un bilan neuropsychométrique complémentaire, il va y avoir encore quelques mois de délai. Après, il y a une synthèse entre les médecins, la neuropsychologue, et on revoit le patient en consultation, donc il y a encore un petit peu. Donc oui, ça peut mettre facilement 9 mois entre le moment où le patient veut consulter et le moment où il entend le diagnostic.
Ah oui, donc d'où l'importance d'aller prévenir son médecin plutôt rapidement, en fait, dès les premiers questionnements, finalement.
Moi, je pense que du moment où on est inquiet, où on se pose la question, il faut en parler à son médecin généraliste, c'est sûr. Il ne faut pas rester avec un doute, de toute façon, sur ça.
Calade.
Ma radio.
Sound of little feet was music. We danced to week, brought back the love. We found trust, vowed we'd never give it up. Remember when? Remember when? 30 seems so old now looking back. It's just a step in the stone to where we are, where we've been. Said we'd do it all again. Remember when? Remember when? We said when we turn gray, when the children grow up and move away, we won't be sad, we'll be glad for all the life we've had. And we'll remember when. Remember when.
Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter
Remember When d'Alan Jackson.
Merci. Nous avons présenté donc la maladie, on a parlé des causes, de sa progression, on va parler traitement. Ce que je voudrais d'abord dire avant qu'on aborde cette chronique du traitement, c'est que j'ai fait une petite erreur sur la chefferie de service. Donc docteur, je vous laisse corriger.
Oui, j'ai été chef de service pendant longtemps, mais j'ai laissé la place au docteur Serkan Kakmak, qui a pris cette responsabilité depuis 2 ans, et je l'en remercie.
Chose dit, rendons à César ce qui est à César. Donc, nous étions donc maintenant sur le diagnostic. Le temps du diagnostic d'annonce, il est peut-être aussi important dans la maladie.
Oui, alors le diagnostic se fait en consultation avec les médecins. On aime bien qu'il y ait un accompagnant, parce que c'est un moment quand même qui est difficile, hein, que ce soit un enfant, un conjoint, un ami, enfin quelqu'un qui soutienne le patient, et puis qui puisse expliquer et entendre ce que le patient va oublier, et surtout être sidéré, parce que toute annonce comme ça d'une maladie grave, ça laisse un blanc, et tout ce qui est dit après a tendance à être oublié, et que ce soit pour cette maladie ou une autre, mais en tout cas sur celle-là ça existe aussi, et donc c'est vraiment un moment difficile à appréhender, et on aime bien qu'il y ait un soutien. Et ce diagnostic, il se fait pas en une fois, en fait. Il y a bien sûr le moment où on entend pour la première fois le mot en consultation, mais après on sait qu'il faut reprendre tout ça, et c'est les neuropsychologues qui revoient le patient et leur accompagnant en consultation, ce qu'on appelle les consultations post-annonce, au bout d'un mois ou deux, le temps que tout le monde parle de ça au sein de la famille, que tout le monde se pose les questions, et tout le monde peut revenir en consultation avec sa liste de questions et essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive et comment on va s'organiser et qu'est-ce qui va changer, et toutes les questions qui peuvent venir à l'esprit dans ce cas-là.
Le traitement ?
Alors, il y a deux parts dans le traitement. Il y a le traitement médicamenteux et la prise en charge à côté. Alors, sur le traitement médicamenteux, on a 4 molécules qui existent actuellement, qui ont été déremboursées il y a maintenant 5 ans, le temps passe vite, en 2018, qui restent possibles à prendre, hein, bien sûr. Elles ont l'autorisation, mais ça reste à la charge du patient et de sa famille. C'est des traitements qu'on dit symptomatiques, donc ça ne permet pas de guérir, mais ça permet de stabiliser les symptômes pendant quelques temps et d'avoir une progression des symptômes un peu moins rapide. Donc ça reste quand même très prescrit, et on évalue au bout d'un an la tolérance et l'efficacité du traitement pour le patient, et on décide de façon conjointe si on continue ou pas.
Qu'est-ce qui a fait que ces médicaments étaient déremboursés?
Je ne sais pas s'il faut que j'aille jusqu'au bout de tout ce qu'il y a à dire, mais,
non, mais en est-ce fait, que c'est parce que c'était pas suffisamment efficace. Est-ce que c'était pas...
Alors, c'est pas un traitement curatif. Ça n'a jamais été un traitement curatif. Ça a juste été un traitement qui retarde les symptômes et diminue ce qu'on appelle l'institutionnalisation. On a une étude anglaise qui s'appelle Domino, qui a mis en évidence que oui, ça diminuait l'institutionnalisation des patients, ça leur permettrait de rester plus longtemps à la maison et dans des meilleures conditions, c'est-à-dire une meilleure qualité de vie. Mmh. Mais ça ne va pas empêcher la maladie d'évoluer. Donc c'est ça qui a conduit à un déremboursement en France, mais il faut savoir qu'il y a plein de pays où c'est encore remboursé, en fait.
D'accord.
Voilà, donc on espère trouver d'autres médicaments. Il y en a un qui vient d'avoir l'autorisation à la FDA aux États-Unis. Pour l'instant, on ne sait pas s'il sera autorisé en France ou pas, en tout cas pris en charge. Parce que là, c'est des médicaments, je vous donne un ordre d'idée, quoi, si on doit parler argent, quoi, 15 euros pour un mois, les vieux, les anciens médicaments, ceux qui vont arriver, ça va être fois 10, en fait, minimum, ou fois 20.
Avec une efficacité qui...
Alors, pour l'instant, ils sont en train d'espérer de jouer sur... l'évolution de la maladie. Mais on manque un peu de recul pour le dire avec certitude aujourd'hui. Donc, sur les traitements médicamenteux, il ne faut pas ne pas en parler, mais il faut toujours l'accompagner du reste. Et le reste, ça reste essentiel. C'est des ateliers mémoire, ça peut être des prises en charge avec les orthophonistes, ça peut être des hôpitaux de jour. Il y a beaucoup, beaucoup de formules différentes en fonction du stade de la maladie, en fonction du patient. Et tout le monde n'aime pas être en groupe ou tout le monde n'aime pas être tout seul avec une dame. Donc, on va essayer de faire un traitement non médicamenteux à la carte.
On peut parler de soins de support?
Ah bah oui, c'est un vrai soin de support. Et puis là, il y a...
Ce qui n'a rien de péjoratif, d'ailleurs.
Non. Non, c'est même...
C'est même essentiel, comme vous le disiez.
Oui.
D'accord.
Il y a une collaboration entre les différents partenaires, entre le patient et sa famille, pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour chacun, qui est essentiel. On s'écrit, les neuropsychologues de la consultation mémoire ont un réseau beaucoup avec les orthophonistes de ville, il y a des liens, enfin, c'est vraiment essentiel pour que les patients aillent bien. Et par exemple, la prise en charge orthophonique a été étudiée et prouvée comme quoi, pareil, elle stabilisait, elle rendait les patients plus stable, moins dans une meilleure qualité de vie lorsqu'il y avait des prises en charge qui étaient réalisées. Et donc ça, c'est important parce que quand ils sont mieux sur le plan psychologique, il y a moins d'agitation.
Et vous parliez de la consultation mémoire. Elles sont où, ces consultations mémoire?
Alors, on a monté ce qu'on appelle un réseau mémoire sur notre territoire depuis 20 ans. On est très fiers de ça. Et du coup, il y en a à l'hôpital de Villefranche, à l'hôpital de Trévoux, à l'hôpital de Belleville, à l'hôpital de Beaujeu, à l'hôpital de Tarare. Puis après, il y en a sur Lyon, bien sûr. Donc, on a essayé de faire des consultations mémoire au plus proche de chacun des patients. Donc, c'est pour ça qu'on en a mis un petit peu partout. Mais on travaille tous main dans la main, on se connaît tous. On se voit une fois par mois ou tous les deux mois pour faire le point sur les nouveautés, travailler de façon identique.
Donc, n'importe quel patient, pour aller à une consultation mémoire, il faut d'abord passer par son médecin traitant?
Alors oui, c'est l'idéal, parce qu'on a les antécédents, qu'est-ce qu'il a eu comme maladie, qu'est-ce qu'il a comme traitement, et on fait le point. Donc oui, l'idéal, c'est d'avoir... Et puis le médecin traitant fera sûrement faire la prise de sang avant pour nous venir avec. Ben, ça dépend des médecins, mais voilà. Et puis,
y en a une même IRM, qui... des fois aussi?
Il y en a même qui prévoient l'IRM, pas tous, mais d'accord. Voilà. Et donc, c'est l'idéal d'avoir un courrier du médecin traitant, mais l'accès est libre.
D'accord. Hein.
Et donc cet accompagnement personnalisé après en hôpitaux de jour ou en orthophonie, en libéral, etc., il est décidé du coup lors de la consultation post-diagnostique?
Alors en fait, on fait ce qu'on appelle des concertations une fois par semaine entre les différents intervenants, le médecin. Nous, au sein de la consultation, par exemple sur Villefranche, on a des médecins, des neuropsychologues, une psychologue clinicienne, une orthophoniste. Donc on se réunit une fois par semaine et on parle des dossiers. Et avec tout ce qu'on a pu avoir comme information dans les différentes consultations, par exemple en consultation post-annonce plus la consultation médicale, on va orienter le patient, on va se dire bah, c'est vers cette orientation-là qu'il nous semble que ce sera le plus pertinent. Et du coup, après, lors de la consultation médicale suivante, ça lui sera proposé, mais ce n'est pas décidé seul dans son coin.
Et au niveau des hôpitaux de jour, ça se fait sur quel dispositif ?
C'est pareil. À ce moment-là, on va se dire, ben, on va vous proposer de l'hôpital de jour où il y a telle et telle activité qui vous sont proposées. Le médecin de l'hôpital de jour fait partie de la concertation, hein, c'est le docteur Audrey Péchu. Et puis, les neuropsychologues de la consultation mémoire font une partie des hôpitaux de jour. En fait, on travaille tous ensemble. Donc, c'est vrai que c'est la consultation mémoire qui va permettre d'accéder aux hôpitaux de jour. Parce qu'on essaye de faire des groupes homogènes avec des patients qui ont les mêmes maladies. C'est très important que ce soit ça. Donc, c'est ceux qui font l'hôpital de jour qui vont se dire que ça va être cohérent de mettre ces gens-là ensemble.
Quand ils vont aller en hôpital de jour, qu'est-ce qu'ils vont faire, les patients ?
Alors, il y a plusieurs types d'interventions. Donc ça, c'est une nouveauté qui vient d'être créée au mois de mai, là, 2023. Hein, c'est tout nouveau. Il n'y a pas eu encore beaucoup de patients qui sont passés, mais ils ont droit. Donc c'est 2 demi-journées par semaine. Oui, 2 demi-journées par semaine. Ils ont sur 2 prises en charge différentes à chaque demi-journée. Il y a de la neuropsychologue qui va te faire travailler un peu la mémoire. Il va y avoir les ergothérapeutes qui sont plus dans le travail de mise en situation. Il y a les APA, c'est les aides aux activités physiques qui vont faire plus travailler l'équilibre, l'appréhension, les choses comme ça. Et il peut y avoir l'orthophoniste aussi qui peut intervenir. En fonction des groupes, on va proposer généralement ces 4 types de structures.
On a parlé donc de l'orthophoniste. En fait, elle va faire une véritable une gymnastique cérébrale finalement.
Alors l'orthophoniste, elle est très essentielle dans la prise en charge parce que d'abord, il y en a beaucoup qui en prennent en charge dans leur cabinet en ville, donc proche du domicile du patient. Ça aussi, c'est pour pérenniser le soin, que ce soit une prise en charge proche du domicile, c'est quand même important. Et puis en tête-à-tête et pendant de très nombreuses années. Donc cette prise en charge orthophonique en ville, pour nous, elle est essentielle. Souvent, elle est le maillon qui continue tout autour de la maladie. Et puis elle va faire travailler non seulement le langage, mais aussi la mémoire, c'est évident.
Est-ce que la gymnastique peut aller aussi jusqu'à la rééducation, à l'effort, et la place de la rééducation à l'effort ?
À l'effort physique, vous voulez dire ? Alors, on va toujours entretenir le corps, c'est sûr, parce qu'une bonne activité physique qui permet d'avoir l'absence d'évolution sur les troubles de la marche. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait la perte d'autonomie à la marche, des choses comme ça, et parce que ça sera plus difficile à réapprendre quand on a moins de neurones. Donc, on va entretenir l'activité physique, c'est sûr.
Un travail sur l'endurance a une efficacité ou pas ?
Une efficacité sur le corps, mais sur la mémoire, il n'y a rien de prouvé.
Il n'y a rien de prouvé, d'accord. Okay.
Mais par contre, toute complication, que ce soit une chute et je me casse la hanche, va jouer sur la mémoire. Donc on a intérêt à être préventif et à entretenir tout ça, le corps, l'équilibre, la force physique, pour qu'il n'y ait pas de complications comme ça et qu'il n'y ait pas une marche d'escalier, comme j'évoquais tout à l'heure, de descente vers une perte de mémoire liée à une autre maladie, quoi. Un autre événement. C'est pour ça que dès qu'on a des troubles de mémoire, on a tendance à des troubles de l'équilibre, on a tendance à prescrire de la kiné en complément. Ça reste important pour nous qu'il y ait un bon équilibre corps-esprit. Oui.
Calade, ma radio.
I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away.
drops in my hand. My heart is drenched in.
Sur Santé Beaujolais d'Ombe et vous venez d'écouter
Don't Know Why de Nora Jones.
Nous venons de comprendre que la maladie peut être diagnostiquée doit être diagnostiquée tôt, le plus tôt possible en tous les cas, afin de mettre en place un traitement adapté. On a parlé de la progression de la maladie. Si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez nous retrouver en podcast sur Radio Calade, sur le site de Radio Calade et sur la page Facebook de Radio Calade. On va parler de la place de l'aidant pour continuer cette chronique. La place de l'aidant, on l'a vu en première partie, est quand même très importante puisqu'il va être l'accompagnant au quotidien.
Oui.
Il est peut-être important de dire que cet aidant a sa place dans le traitement aussi.
Oui. Alors, l'aidant est essentiel tout au long de la maladie. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur ses épaules. Donc, on va essayer de l'accompagner lui aussi parce que c'est un rôle qui est essentiel, mais très, très lourd et qu'on n'avait pas prévu de faire généralement. Ça vient en plus de ce qui avait été comme projet. L'aidant, il est essentiel parce que s'il n'est pas persuadé de la prise en charge, vu la grande confiance que fait le patient à l'aidant, le patient pourra difficilement adhérer à la prise en charge. Donc l'aidant, il doit comprendre l'intérêt de la prise en charge pour pouvoir accompagner son patient dans cette prise en charge, que ce soit vers les orthophonistes, que ce soit vers les hôpitaux de jour, que ce soit aussi vers les accueils de jour, qu'on n'a pas encore eu le temps d'évoquer, qui sont une partie importante où le patient va dans une structure dédiée pour ça. Et il va y passer la journée de 9h à 16h30. Et il va avoir des temps de stimulation cérébrale le matin, des temps de stimulation physique, on en revient où on veut stimuler les deux l'après-midi. Un temps social aussi essentiel qui existe dans ces accueils de jour, qu'on a plus de mal sinon en prise en charge individuelle, puisqu'il y a un repas qui est partagé, qui est préparé souvent de façon conjointe et qui est partagé. Ces accueils de jour, il y en a beaucoup, il y en a un dans chaque ville où il y a des consultations mémoire, mais même sur Villefranche, par exemple, il y a 2 accueils de jour. Donc, il ne faut pas hésiter à évoquer ça.
Et ces accueils de jour sont programmés dans le temps, en fait. J'imagine que c'est un rituel, pratiquement, non?
Alors, ça va être le même jour. Une fois par semaine. tous les mardis, par exemple, où il y a un taxi ou un petit minibus qui vient chercher le patient à son domicile et qui va l'emmener, et puis qui va le ramener le soir.
Donc pour l'accompagnant, ça lui permet aussi de souffler.
Bien sûr, c'est une journée où il n'a plus la charge, où il a le temps d'aller faire ce qu'il a à faire, à titre personnel, hein, ses rendez-vous médicaux et tout cela. Donc oui, cet accueil de jour, il est pour le patient, et puis il peut aider l'aidant. La deuxième chose dans ces accueils de jour, il y a ce qu'on appelle le répit des aidants. On peut tous avoir un rendez-vous qui ne tombe pas le mardi où notre conjoint a l'accueil de jour. Donc, ils font en parallèle. On peut s'inscrire en disant « Tel jour, j'aurais besoin que vous gardiez mon conjoint parce que je ne suis pas disponible. » Eh bien, ils vont au répit des aidants et ils vont pouvoir être occupés et pris en charge par des professionnels qui ont l'habitude pendant que l'aidant a fait ce qu'il a à faire. C'est les mêmes structures, en fait. Hein. Mais c'est une autre porte d'entrée et ce n'est pas la même organisation. Le répit, c'est quelque chose d'un peu imprévu, c'est en plus, quoi. L'accueil de jour, il est dans la globalité, c'est-à-dire que souvent, la consultation mémoire va l'orienter vers l'accueil de jour, puis l'accueil de jour va orienter vers, par exemple, une autre structure qu'on n'a pas évoquée encore, qui s'appelle l'unité cognitivo-comportementale, qui est quand il y a des troubles du comportement, on peut être hospitalisé pendant 3 semaines dans un centre de rééducation. Et du coup, ça peut être soit la consultation mémoire, soit l'accueil de jour qui alerte l'infirmière de cette unité en disant « ça se passe pas bien à la maison, est-ce qu'on peut pas le prendre en charge pendant 3 semaines, voir ce qu'on peut faire d'un point de vue thérapeutique en dehors des mesures spécifiques, d'autres médicaments, et voir comment on peut aider ce couple ou cette famille et ce patient à être pris en charge ».
Il peut y avoir aussi des consultations, il me semble, pour les aidants seulement.
Oui, alors ça, c'est les mêmes médecins qui font la consultation mémoire. On appelle ça de la consultation aux familles. Donc, la famille prend rendez-vous en disant « j'ai le droit à une consultation aux familles », c'est une par an, hein, généralement. Et ils viennent seuls, sans leur aidant, et ça leur permet des fois de poser des choses qu'ils oseraient...
Sans leur patient.
Merci. Ça permet de poser des questions que parfois ils ont plus de mal à poser, parce que dans les consultations, on est tous autour de la table ensemble, quoi.
La place des associations.
Alors, la place des associations, elle est essentielle pour les aidants. Il y a France Alzheimer qui est bien implantée dans notre territoire, qui fait un gros travail d'aide aux aidants. Ils font des ateliers. On travaille en collaboration, c'est-à-dire, par exemple, sur notre site de consultation mémoire, on n'a pas développé tellement les ateliers aidants parce que France Alzheimer avait déjà bien mis ça en place. Ils ont une antenne sur Villefranche, ils ont une antenne sur Belleville. Les neuropsychologues travaillent main dans la main entre la consultation mémoire et France Alzheimer. Elles travaillent souvent sur les deux structures. Donc pour nous, c'est vraiment un partenaire de prise en charge, cette association de famille. En plus, ils ont tous vécu ça, ils sont proches, ils donnent des sortes de clés qu'on ne peut pas donner en tant que médecin, mais qui sont des clés d'aidant à aidant, quoi. Donc pour nous, ils sont essentiels.
Ça va être plutôt destiné aux aidants et pas aux patients.
France Alzheimer s'occupe beaucoup des aidants.
Calade.
Ma radio.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter
On Melancholy Hill de Gorillaz.
La maladie d'Alzheimer doit avoir une prise en charge combinant des soins médicaux, paramédicaux et de support. On a vu que l'entourage ne devait pas être ignoré, et il ne l'est pas, et il est accompagné par l'écoute et le partage d'expériences. L'association Alzheimer sur Villefranche-sur-Saône offre ses possibilités avec l'aide de ses bénévoles. L'association propose des activités adaptées, des ateliers loisirs et d'écoute. Vous pouvez les joindre au 06 07 09 00 96, je répète, 06 07 09 00 96. Un accompagnement psychologique est proposé aux adhérents. Merci à Maury pour le mixage de notre émission. Docteur Anne-Nové-Josserand, un grand merci pour votre participation et à bientôt, je l'espère, pour une prochaine émission.
Bien volontiers, merci à vous de m'avoir invité.
Marie, Alexandra et Cécile, même les auditeurs auront remarqué que je n'aurais pas fait la faute.
C'est bien.
Rendez-vous même heure, même endroit, le mois prochain pour une nouvelle chronique Santé Beaujolais d'Ombes. Au revoir à tous.
Au revoir. À bientôt. Au revoir.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Calade.
Ma radio.